dans ton amour infini, tu as permis que nous puissions être là ce matin pour te rendre un culte agréable. Loué sois-tu, ô notre Dieu, parce que tu es un Dieu élevé au-dessus de tout. Nous te bénissons, nous te glorifions de ta grandeur, de ta bonté, de ta majesté et de ta fidélité. Merci parce que tu nous as conduits jusqu'à ce lieu et tu nous as bénis chacun et chacune. De retour, Seigneur, nous voici devant toi pour t'offrir, Seigneur, notre corps, tout notre corps, notre pensée, notre âme, pour que toi, tu sois honoré et glorifié en ces jours. Nos bien-aimés qui sont encore sur le chemin, par ce temps de pluie, s'ils viennent en voiture, Seigneur, éloigne tout incident et accident. Quel que soit, Seigneur, le moyen de transport qu'ils vont prendre, Seigneur, garde et protège, afin que nos bien-aimés qui vont se joindre à nous puissent se joindre en toute tranquillité et paix qui vient de toi. Seigneur, merci. Merci pour ces cultes, louanges, honneur et majesté à toi. Nous savons que dans le monde entier, encore ce matin, tes enfants se rassemblent pour te rendre toute la gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, que ton esprit puisse habiter, et Seigneur, tous nos bien-aimés, afin que, Seigneur, l'humanité tout entière, donc là où tes enfants sont placés, Seigneur, qu'ils puissent te rendre ces cultes merveilleux. Nous pensons aussi à ceux qui sont persécutés. Ceux-là, Seigneur, notre Dieu, souffrent. Ils vont se cacher pour te louer et t'adorer. Mais éternel, tu es un Dieu qui protège, un Dieu qui se souvient. Seigneur, souviens-toi de nos bien-aimés, de leurs persécutions. Garde-les et protège-les dans le sang précieux de Jésus. Amen. Voilà, nous avons un Père aimant, infiniment bon, infiniment fidèle, qui nous aime d'un amour incomparable. Dans son amour, nous connaissons bien Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné et son Fils bien-aimé. Jésus est venu jusqu'à nous. Il a quitté son ciel de gloire pour venir dans ce monde assombri par le péché et la mort. Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'est pas venu seulement sur cette terre pour prouver son autorité. Mais il a fait quand même quelque chose de plus important. Il a renoncé à tous ses privilèges. Lui qui était assis sur le trône, la gloire est céleste. Mais il est venu sur cette terre en simple homme. Pour faire quoi? Pour servir. En servant, il a donné sa vie pour nous. Lui, aujourd'hui, que nous voulons appeler au travers de ces chants le roi serviteur, il est venu jusqu'à nous pour nous servir. Rappelons-nous, avant qu'il quitte ce monde, il a rassemblé ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il s'est humilié devant ses disciples. Lui, qu'on appelle maître, il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus, le roi serviteur. C'est un exemple parfait. Qu'aujourd'hui, Dieu nous a appelés, nous sommes nés pour le servir, n'est-ce pas? Le servir, c'est une joie, ce n'est pas une calamité, servir Dieu. C'est une grâce de servir Dieu. Le Dieu vivant est vrai. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons chanter ce cantique qui est dit « Tu es venu jusqu'à nous ». Jésus est venu jusqu'à nous. Je vous demande seulement de chanter avec la force, la joie, et l'amour qui vous anime encore ce matin par le Saint-Esprit qui habite en nous.
Yeah.
Qui s'est dit que je suis votre serviteur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais quand nous regardons le quatrième strophe, qui nous dit, apprenons donc à servir. Mais comment apprendre à servir Dieu? C'est en laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Parce que lui-même, il s'est donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a manifesté son amour pour nous. Donc le servir, quand nous servons nos bien-aimés, quand nous aimons nos prochains, c'est Christ que nous servons. Amen. Alors, nous voulons rendre gloire à Dieu. C'est vrai que le premier chant, c'est toujours rendre gloire à Dieu. Mais je veux dire ceci, que nous voulons bénir ces grands dieux qui a permis à son fils bien-aimé de quitter le ciel de gloire. Il a dit, va mon fils. Et Christ a accepté. Il a obéi. Et ces grands dieux qui nous aiment tant, nous voulons les bénir par ce beau chant qui nous dit, grand Dieu, nous te bénissons. Soit à Jésus-Christ, gloire soit au Saint-Esprit, la Trinité. Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Frère. Oui, comme c'est dit ces strophes, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Oui, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ dure à perpétuité. Et nous pouvons aussi dire que le règne de l'Éternel dure à perpétuité. Sa gloire, sa puissance, sa bonté, sa force, tout en lui est éternel. Alléluia. Oui, l'Éternel règne parce que tout en lui est éternel. Il est majestueux parce que tout en lui est éternel. Il est saint de force parce que lui, tout en lui est éternel. Et cela est éternel pour la durée des temps. Qui peut calculer le temps de l'Éternel? Personne. Le temps est à l'infini. Notre Dieu, sa sainteté dure à perpétuité. Nous allons donc dire à Dieu, Seigneur, ton règne est éternel. Tu es majestueux et c'est là pour la durée des temps. Amen. Nous allons chanter. Mais je vous sens un peu fatigué quand même. Est-ce que c'est le temps? Voilà que Dieu nous dit que son temps est éternel. Alors sachant que nous allons rejoindre celui qui est éternel. Donc la fatigue de ce moment, on ne regarde même pas. Parce que nous sommes dans la joie d'aller rejoindre celui qui est éternel. Alors, essayons d'aller encore plus de l'avant avec de la joie pour chanter celui qui est éternel. Durée des temps, nous t'exaltons. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, tu es digne des louanges. Donc, peuple de Dieu, je vous invite au travers de ces chants que nous puissions prendre le temps de louer les seigneurs. Même par une phrase, afin qu'un grand nombre, le maximum, puisse rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas que je vous défends d'entonner des petits cantiques, mais de rendre gloire à Dieu. Donc, Dieu nous a donné donc tous les éléments possibles et la bouche, etc., pour lui rendre gloire. Alors rendons-lui gloire, adorons-le, exaltons-le par des courtes prières, par des simples phrases. Amen. Connaissez-vous celui qui a dit que je quitte le ciel de gloire pour venir vers vous, afin que quand je vais retourner dans son parvis, il va préparer une place pour moi. Vous le connaissez celui-là? C'est Jésus. Connaissez-vous celui qui est venu pour combattre? C'est lui qui est venu pour nous arracher de la gueule de lion, notre ennemi. Et c'est lui qui a dit que tout est accompli. C'est qui?
Jésus.
Alors il y a très peu qui répondent Jésus. Donc connaissez-vous quelqu'un d'autre alors? Ceux qui ne répondent pas. Mais oui, connaissez-vous quelqu'un d'autre?
Non.
C'est tellement évident. Tellement que ça nous dépasse. Et c'est vrai. Connaissez-vous celui qui, il y a 2 semaines, il y a nos bien-aimés qui ont rendu toute la gloire en témoignant ce qu'il a fait pour eux? C'est qui encore?
Jésus.
C'est Jésus. Mais tellement que ce nom est merveilleux. Tellement que ce nom est beau. Est-ce qu'il a des rivales? Non. Il n'a pas de rivales. Il est sans égal, sans rival. Il triomphe à tout jamais. Donc, je vous invite, ceux qui ont encore de la force, de se mettre debout, si vous voulez bien. Ceux qui sont fatigués, restez assis. Nous allons chanter ce nom si merveilleux, avec tout notre cœur, pour lui rendre toute la gloire. Donc, Anaël va commencer et nous allons le suivre après.
Tu es
Sans égal. Ta puissance est incomparable, ô Jésus. Oui, ta puissance est sans pareil. Seigneur Jésus, tu triomphes à tout jamais. Ta victoire est notre victoire. Ô Jésus, notre Seigneur, tu as quitté les ciels de gloire pour venir jusqu'à nous et tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Merci, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous venons de le chanter que ton nom est merveilleux. Ton nom est sans égal. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est merveilleux. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que maintenant nous allons prendre notre chant. Nous allons acclamer ce nom qui est si merveilleux. Amen. Alors Dieu nous a donné les mains. Nous allons acclamer notre Seigneur par ses chants.
Acclame Dieu, j'anime mon entier, célèbre son nom glorieux, honore les paroles dites à votre Dieu.
Que tu es notre Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es roi, le roi des rois. Tu es fort et redoutable. Seigneur, qui peut se comparer à toi, Seigneur, notre Dieu? C'est pourquoi ce matin, par ces cantiques, nous t'acclamons, nous t'adorons, nous te célébrons, parce que tu es l'unique. Gloire à Jésus. Avant de prendre encore un petit temps pour la prière, quelques personnes, nous allons chanter ce cantique qui nous dit « Devant le trône du Très-Haut ». C'était un beau cantique, n'est-ce pas ? « Devant le trône du Très-Haut ». C'est lui qui est merveilleux. Il a dit « Je suis votre défenseur ». Il est celui qui plaide pour nous. Il est celui qui intercède pour nous. Et c'est là chaque jour, tous les jours. Nous savons tous que nous avons un ennemi qui nous hait, qui ne nous aime pas. C'est Satan. Ce matin, peut-être, il vous a fait douter. Il pleut dehors, n'allez pas à l'église. Ce n'est pas grave. Ça sera l'autre dimanche. Mais vous avez pris la force, vous êtes venu. C'est celui-là qui nous fait douter que Christ est venu pour nous défendre. Oui, si nous levons les yeux vers celui qui nous a donné la vie, celui qui est innocent, qui s'est sacrifié pour nous, nous voulons dire seulement, Seigneur, là où tu es assis, sois béni, sois glorifié et sois honoré. Devant le trône du Très-Haut, notre défenseur saura plaider. Et il est fait. C'est un avocat superbe, un avocat incomparable. Gloire à Jésus. Devant le trône du Très-Haut. Sauveur. Notre ennemi est vaincu. Gloire soit rendue à Jésus. Lui, l'accusateur de frères et de sœurs, il a été vaincu. Oui, que quelques-uns, trois ou quatre personnes, puissent encore élever la voix pour dire, Seigneur, nous nous inclinons devant ton trône de majesté et de gloire, parce que tu es notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Amen. La grâce infinie de Dieu. Dieu, peuple de Dieu, nous a fait grâce, n'est-ce pas ? Sa grâce est infinie. Dans sa grâce, il a pris nos échecs. Dans sa grâce, il a pris nos faiblesses. Dans sa grâce, nous qui étions vraiment fragiles, donc il a mis son trésor dans le vase d'argile. Vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait pour nous ? C'est Dieu amour. C'est pourquoi, quand sa parole même nous dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur. C'est vrai, nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur et lui dire, Papa, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Oui, en aimant Dieu parce qu'il nous a créés et il nous a fait confiance et il nous a dit, servez-moi. Donc, de tout notre cœur, donc ces cantiques que nous allons chanter, il dit, prends mon cœur, Père, je vais te servir, pour que tout se voie ta vie en moi. Les disciples reflètent la vie de son maître, n'est-ce pas? En amour, en pensée, en action, en réaction. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que tous voient. Nous allons chanter ces beaux cantiques. Vase d'argile.
Mais en allant vers l'avant.
vous asseoir. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Père, ta grâce est infinie. Merci pour ton amour. Merci parce que des vases d'argile, tu as fait de nous des vases d'honneur pour te servir, toi le Dieu vivant et vrai. C'est pourquoi, ô notre Dieu, tu nous as entendus et nous voulons aussi t'entendre. Au travers de ton serviteur, tu lui as donné la parole pour nous ce matin. Ô ton serviteur de force, de sagesse, de discernement, protège-le pendant même qu'il est en train de nous parler de ta part. Nous aussi, nous avons besoin de ta divine protection. Que Satan s'éloigne de nos oreilles pour nous empêcher d'entendre ta parole. Nous voulons entendre cette parole qui est vie pour chacun de nous. Et nous voulons aussi, ô Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, mettre cette parole en pratique pour que toi, tu sois continuellement honoré dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur notre Dieu, nos cœurs ce matin t'appartiennent au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place au pasteur pour...
Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps simple et fort parce qu'il nous permet justement de laisser nos cœurs et tout notre être visité quand nous chantons, quand nous louons notre Dieu. C'est là aussi l'intérêt de vivre un culte ensemble. Nous sommes des êtres sensibles et Dieu le sait et il aime communier avec nous. Il aime aussi que dans le chant, dans la louange, dans les prières, nous lui permettons de nous faire tressaillir parce que nos vies sont alimentées aussi par toutes ces sensations pour la gloire de Dieu. En tout cas, je bénis Dieu pour ces temps où nous pouvons l'adorer, le louer. Il faut toujours le faire avec reconnaissance, bien-aimé. J'en dirai un mot vers la fin de mon message, mais vous savez que d'autres dans le monde n'ont pas ce privilège. Actuellement en Algérie, les chrétiens algériens sont bousculés dans leur foi parce que les églises, en tout cas, bon nombre d'églises ont été fermées. Et le monde entier, le monde chrétien entier est en prière pour l'église en Algérie. Alors, à chaque fois que nous avons ce privilège de venir au culte, soyons reconnaissants à Dieu et vivons-le pleinement, car c'est un privilège que nous avons. Depuis dimanche dernier, j'ai commencé à aborder avec vous un thème qui n'est pas simple à aborder, en tout cas de ma position à moi, en tant que pasteur. Mais en même temps, c'est un thème qui est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le pourcentage d'évocation de ce thème dans la parole de Dieu est éloquent. C'est le thème du service de Dieu. Servir Dieu avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. Servir Dieu avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. Après la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Vient la reconnaissance du chrétien. Après la grâce du salut, vient le témoignage du chrétien. Et la question, c'est comment être reconnaissant à un Dieu si merveilleux, dont les cantiques que nous avons chantés évoquent la merveille de ce qu'il est. On a demandé à David, où est ton Dieu? Il dit, mon Dieu au ciel, il fait ce qui lui plaît. Mon Dieu est au ciel, il fait ce qui lui plaît. Nous ne voyons pas Dieu. Dieu est un pur esprit, n'est-ce pas? Mais depuis qu'il a créé l'être humain, il aime communier avec lui. Et nous voyons tout de suite dans les premiers livres de la Genèse, Dieu qui prend plaisir à venir communier avec Adam, n'est-ce pas? C'est un Dieu de communion. Il aime communier avec l'être humain. Et cette communion a été brisée, n'est-ce pas, par le péché. Mais sans cesse, Dieu est celui comme le père du fils prodigue qui est sans cesse à la recherche de cette communion avec ses enfants. Sans cesse. Il ne se lasse pas de rechercher, de renouer, de reprendre la relation avec nous. C'est un Dieu de grâce. Et nous qui sommes là ce matin, c'est parce que justement, il ne s'est pas lassé de nous chercher. Et au bout du bout, il nous a trouvés. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Alors, comment être reconnaissant à un Dieu? À ce Dieu-là, ce Dieu dont la parole dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment être reconnaissant à cette action de ce Dieu? Il ne nous a pas demandé à nous de payer le prix. Il a pris sur lui de payer le prix. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore rebelles, alors que nous étions encore loin de lui, alors que nous disions des choses qui n'étaient pas à la gloire de son nom, Dieu est le premier qui s'est mis en marche pour venir nous chercher, alors que nous n'étions pas dignes de cet amour. C'est lui qui a fait toute la démarche. Alors, comment être reconnaissant à ce Dieu? J'ai commencé à répondre à cette question, n'est-ce pas, dimanche dernier. Je vais juste évoquer un aspect que j'ai bien développé dimanche dernier et je terminerai par un autre aspect qu'on n'a pas développé dimanche dernier. Vas-y, s'il te plaît. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, il y dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Par lui, c'est par Jésus. Hein. On est à la fin de ce livre, de cette épître aux Hébreux, où l'auteur inspiré par Dieu a expliqué qui est Jésus. Jésus est ce médiateur. Jésus est ce roi serviteur. Jésus est celui qui donne sa vie. Jésus est celui qui est au ciel et notre avocat. Et tous les cantiques que nous avons chantés évoquent qui il est, n'est-ce pas? Et c'est par ce Jésus-là, justement, que nous pouvons nous approcher de Dieu sans cesse. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Sans cesse. Nous sommes invités à nous approcher de ce Dieu avec un sacrifice de louange. Hein, vous savez le sacrifice, vous savez ce que c'est. Hein? Je n'ai pas besoin d'expliquer le sacrifice. Le sacrifice, c'est de donner quelque chose qui me coûte. De donner quelque chose qui me coûte. De faire quelque chose qui me coûte. Quand les parents, parfois, sinon trop souvent, sinon toujours, sont obligés de faire d'énormes sacrifices pour que les enfants aient un avenir, c'est ça le sacrifice. Il y a des choix dans la vie de parents qui ne sont pas parfois simples. Il y a des renoncements qu'ils font parfois parce qu'ils voient que ceux que Dieu leur a donnés, les enfants, ont besoin d'un avenir meilleur. Et ça coûte aux parents de faire ça. Et ça coûte aux parents de faire ça. Mais quand on est enfant, on ne s'en rend pas compte. Au contraire, parfois, on est même grincheux. Oh là là, encore si. Et puis quand on a grandi, et qu'on regarde nos parents et on dit, oh Seigneur, ils n'ont pas été parfaits, mais merci parce qu'ils ont été là. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, avec les moyens qu'ils avaient. Ils se sont battus. Et quand tu deviens parent, tu dis, ah, c'est pas simple cette affaire. Ah, finalement, c'est pas... Je ne sais même pas si je pourrais faire comme mes parents, je ne sais pas. Quand tu prends de la distance, tu dis, ouh. C'est ça le sacrifice. C'est de se départir de quelque chose, de mettre une pause sur certaines choses qu'on aurait bien voulu faire. Et de toutes les façons, ce n'est pas des choses qui sont le péché ou le mal, non. C'est ça qui fait mal en fait, parce que c'est des choses qui sont permises en fait. mais on s'oblige à les laisser de côté pour donner un avenir. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu a fait. La Bible dit qu'il n'avait pas besoin de venir. Il est Dieu, il pouvait décider de tout ce qu'il voulait. Quand on a péché, il pouvait dire d'un seul trait, allez, je fasse tout ça et je reprends à zéro. Mais non, parce qu'il ne se dédie pas. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il a mis son affection dans l'homme. Il ne pouvait pas juste le détruire, non. Il a cherché une solution qui lui a coûté. Pendant des siècles, il a mis en marche cette solution. Époque après époque, siècle après siècle, jusqu'à ce que cette solution soit finalement complète en Jésus-Christ. Alors approchons-nous ce Dieu avec un sacrifice de louange. Quand nous venons au culte les dimanches matins, moi j'essaie de me dire avec ma famille, on ne va pas venir par tradition, on va venir parce que ça nous coûte de venir. En vérité, ça nous coûte tous de venir. Hein? Ça coûte un déplacement, soit en train, soit en bus, ça coûte du carburant. Ça coûte une grâce matinée qu'on aurait bien voulu faire un dimanche matin. Franchement, ça vaut la peine quelquefois, surtout pendant l'hiver. On est bien au chaud. Il faut sortir, il faut préparer les enfants. Quand on en a, ça demande quelque chose. Mais pourquoi je le fais? Parce que lui, il a fait ça pour moi. Parce que Dieu l'a fait pour moi. Jésus dit, et c'est dans cette même épître aux Hébreux, on dit quand nous souffrons, il souffre aussi. Quand nous sommes en joie, il est en joie aussi. Et c'est Jésus qui disait, il n'y a pas un brin de nos cheveux qui ne tombe au sol sans que Dieu ne le sache, car il connaît le nombre de chacun de nos brins de cheveux. Pour dire qu'il s'intéresse dans les détails à nos vies. Il s'intéresse dans les détails à nos vies. C'est pour lui que je fais ça. Ce Dieu-là. Ce sacrifice de louange, finalement, c'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Vous savez, la confession, ce n'est pas juste des paroles. C'est pour ça que nous, les évangéliques, prier, ce n'est pas juste lancer des mots en l'air. Ce n'est pas juste réciter de belles paroles. C'est de dire ce qu'on vit au fond de son cœur. C'est ça la prière, finalement. Et les psaumes sont remplis de cette expression. Quand David est malade, il dit, je suis malade. Tout simplement à Dieu. Quand il est en colère contre Dieu, il dit, mais je ne te vois pas, où es-tu? J'aurais voulu que tu agisses là, mais tu es loin de moi, pourquoi? Et puis quand Dieu le délivre, il dit, béni soit le Dieu de mon salut, celui qui a été l'auteur de ma délivrance. Un psaume qu'on aime beaucoup, c'est le psaume. L'Éternel est mon. Le psaume. Et j'aime toujours dire aux chrétiens, lisez d'abord le psaume 22, avant de lire le psaume 23. Le psaume 22, David dit, où es-tu, Seigneur? Je te cherche. Il est dans un truc pas simple. Et puis après, on a le psaume 23, il dit, l'Éternel m'a engagé, je ne manquerai de rien. Tu dis, oh David, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux psaumes? Bref, que le fruit de nos lèvres soit ce que nous vivons au-dedans de nous. Dieu, c'est ça qu'il aime. Il aime que nous soyons entiers, honnêtes avec lui. Et c'est ça la louange à Dieu. Et il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Parce qu'il a exposé dans ce livre aux Hébreux qu'en fait, dans l'ancienne alliance, l'offrande était aussi une offrande matérielle. Elle n'était pas juste des paroles. S'offrir à Dieu, ce n'était pas juste « Ah Seigneur, je t'aime » comme on le fait aujourd'hui. C'est aussi de le matérialiser dans ce que nous faisons au service de Dieu. Et c'est cela que je veux redire ce matin avant d'aller plus loin. Donner pour l'œuvre de Dieu. Donner pour l'œuvre de Dieu. On a de nombreux passages dans la Bible qui parlent de donner. De donner pour faire du bien, pour faire du bien à tous, de donner spécialement aussi pour la maison de Dieu. Il est recommandé d'être libéral, prompt à donner et riche en bonnes œuvres, selon 1 Timothée 6, 18. Il est recommandé d'être les premiers dans les bonnes œuvres, les bonnes actions, dans le fait de faire du bien, de faire le bien. Si on doit vous classer sur une liste de ceux qui font le bien, il dit, soyez parmi les premiers à faire le bien. Soyez parmi les premiers. Et le bien prend tellement de visages. Tellement de visages. Il est recommandé d'être de bons gérants de la grâce variée de Dieu. 1 Pierre 4, 10. Il expose un certain nombre de choses. Il dit en fait que ce que Dieu souhaite, c'est que chaque croyant soit un bon gérant des grâces que Dieu lui fait. Bien gérer ce que Dieu a fait de toi. Bien gérer ta vie. Aussi petite penses-tu qu'elle est, Dieu t'invite à la bien gérer. Et ensuite à bien gérer aussi ce qu'il te donne. Comme qualité, comme compétence, comme moyen. Et tout cela pour la gloire de son nom. Le don ici, c'est le don des choses matérielles, des choses dont les autres ont besoin. Et je l'ai dit, servir, ça commence dans la famille. Ça commence là où on est. Nous verrons tout à l'heure comment ça se matérialise dans l'église de façon concrète, n'est-ce pas? La diapo d'après, s'il te plaît. Avant que Dieu ne demande de donner, ce que Dieu cherche d'abord, c'est que tu te donnes à lui. C'est ça. Dieu n'a pas besoin d'abord de ce que nous avons. Il a besoin de ce que nous sommes. C'est nous qui cherchons d'abord. C'est pas ce que nous donne qu'il cherche, n'est-ce pas? Il faut d'abord que Dieu ait sa part de louange et d'adoration. La meilleure louange et la meilleure adoration, c'est pas celle qui sort du fruit de nos lèvres. C'est ce que nos vies sont. On dit que nos vies doivent être un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas? Nos vies doivent être un parfum de bonne odeur. C'est ça la louange à Dieu. C'est ça l'adoration. Ensuite, que le chrétien répande autour de lui, non seulement par la parole, mais encore par toutes sortes d'actes de bonté qu'il réponde, n'est-ce pas? Avec dévouement, bien sûr, la bonne odeur du précieux nom de Dieu. Nous sommes des chrétiens. C'est marqué là sur notre front. Petit Christ. C'est ça être chrétien, c'est être des petits Jésus. On n'est pas Jésus, c'est bien. On a bien compris qu'on n'est pas Jésus. Mais par contre, ce qu'on a compris, c'est qu'on veut être comme lui. Et que l'Esprit de Dieu est là, disponible pour nous aider à être comme lui. Est-ce qu'il y a un plus beau projet que d'être comme Jésus? En tout cas, on verra tout à l'heure. Pourquoi être comme Jésus? Que ce nom soit invoqué avec... ce don. Y a-t-il des règles pour donner l'argent? Le thème qui fâche dans l'église. Donner l'argent à Dieu. Dit comme ça, ça n'a pas l'air brut. Mais je dis toujours, pour mieux apprécier cela, il faut regarder les siècles d'histoire. D'abord de l'église, mais avant l'église du peuple de Dieu. S'il n'y avait pas d'hommes et de femmes engagés qui ont donné durant tous ces siècles, nous ne serions pas là aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ça dont il faut se convaincre. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Les sociétés missionnaires qui se sont déployées dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle, elles n'ont pas fait sans argent. Elles l'ont fait avec le don financier de chrétiens et de chrétiennes. On a été touchés. On était en ce moment-là encore en mission en Afrique, dans notre pays, et on a été touché par le don qui nous est venu des États-Unis. Et on nous a expliqué que c'était une école de dimanche, des enfants de l'école du dimanche qui avaient été sensibles à une cause des enfants de notre église et qui avaient dit pendant une bonne période, nous allons mettre de côté notre argent de goûter pour envoyer aux enfants de ce pays d'Afrique pour qu'ils aient des conditions particulières dans leur église. Ça nous a touché. Des enfants d'une école de dimanche qui se sont privés de leur goûter. Pas par contrainte, parce que leur monitrice leur avait expliqué le projet. Et ça a permis à une église en Afrique, à des enfants d'une église, d'avoir le matériel nécessaire pour eux aussi être dans de bonnes conditions pour être bien enseignés par la parole de Dieu. C'est ça donné. C'est pas juste des gros chiffres, c'est pas 3 à 0 après la virgule, non. c'est de se dire, cette œuvre, elle est bonne. Cet évangile, il a besoin d'être annoncé. Et nous avons besoin tous de mettre la main à la pâte pour que ça continue d'être annoncé. Nous sommes la génération qui doit transmettre, c'est nous qui devons transmettre. Et notre responsabilité, c'est de dire, qu'est-ce que nous allons faire pour que ça continue? Comment faire pour que ça continue? Alors, dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y avait cette question de dîme. Il faut le redire, c'est le dixième des revenus. Et l'Ancien Testament pullule de dîme, la dîme de ceci, la dîme de cela. C'était une économie que Dieu avait mis avec son peuple et ça fonctionnait. Il dit, envoyez les dîmes et les offrandes pour qu'il y ait dans la maison de Dieu de quoi non seulement prendre soin du temple de Dieu, mais prendre aussi soin des veuves, des orphelins, des pauvres et des étrangers. Il n'y avait pas la sécurité sociale en ce moment-là. C'était une forme de solidarité. Pour que le culte puisse continuer, mais aussi pour que les nécessiteux puissent être pris en charge. Est-ce qu'il y a encore des nécessiteux aujourd'hui? Est-ce que la bonne nouvelle doit continuer d'être annoncée encore aujourd'hui? C'est pour cela que Jésus et tout le Nouveau Testament... Parfois, les gens disent, mais la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Oui, la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Jésus l'évoque une seule fois. Lorsqu'il parle avec les pharisiens, il dit, vous dites la dîme du cumin, du machin truc. Mais bref, Jésus établit une autre priorité. Il dit, l'Ancien Testament, je ne veux pas le dédier, puisque c'est moi qui l'ai annoncé. Mais je vais le rendre parfait. Au-delà d'une question de pourcentage, c'est finalement une question de libéralité. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime celle qui donne avec joie. Cette libéralité, c'est la capacité particulière que Dieu accorde de donner généreusement et joyeusement des finances ou des biens matériels pour le royaume de Dieu. Certaines personnes néanmoins ont un désir plus intense de donner matériellement une partie importante de leurs revenus pour le royaume de Dieu. Même si la générosité doit être manifestée par tous les chrétiens, certains croyants éprouvent une grande motivation, une joie profonde et cherche à offrir à bon escient. Comment donner? Donner régulièrement, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, paraît être la norme minimale, chacun selon qu'il aura prospéré. Et là, j'aime raconter l'expérience d'un missionnaire. C'est un Américain qui voulait aller en mission. C'est une histoire vraie, c'est une biographie missionnaire. Et puis, il avait un bon métier, il a tout lâché et il est parti. Et en fait, ça s'est très mal passé les premiers jours. Il est tombé malade. On a dû le rapatrier. Mais quand il a été rapatrié, on lui a dit, vous ne pouvez plus retourner dans ce contexte, dans ce pays-là, parce qu'en fait, votre santé, elle est fragile. Mais il dit, mais pourtant, Dieu m'a convaincu d'aller en mission. Me serais-je trompé sur cette conviction? Et pendant ce temps de réflexion, en fait, il dit qu'il a bien médité et en fait, il a bien compris ce que Dieu lui demandait. Il a repris son métier et comme il était bon dans ce domaine, il a prospéré. Et il dit quand ses affaires ont commencé à marcher, en fait, il a reçu la visite de deux personnes qui lui ont dit « Dieu nous a mis à cœur de venir te voir, nous partons en mission, mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus te voir. » Et il a dit « Ah, j'ai compris. » J'ai compris en fait, moi je pensais que c'est moi qui devais aller sur le champ de mission, mais en fait, je devais aller en mission, mais pas moi physiquement, mais soutenir ceux qui vont en mission. Et depuis ce jour, il a commencé à financer cette œuvre missionnaire de façon conséquente. Il est produit de ce que cette mission a fait sur le terrain, des âmes qui se sont converties, des églises implantées, c'était incroyable. Et bien c'est l'histoire de notre union d'église. Si cette église est là, c'est parce qu'il y a maintenant 40 ans, quelques familles américaines qui appartenaient à une mission qui s'appelle la Team ont pris sur elles avec leurs églises de dire la France a besoin d'être évangélisée, on va venir en France. 4 ou 3 familles, elles sont venues avec les finances américaines, elles se sont investies dans la culture française, elles avaient toujours un temps d'apprentissage du français, où ils apprenaient la culture française et puis ils ont commencé à évangéliser. Et il semble que la première église était à Orly. Et d'Orly, quand l'église a grandi, ils ont commencé a bougé. Et aujourd'hui, on a 32 églises en France. 32 églises. Et la plupart de nos églises qui ont des bâtiments ont été financées par cette mission. Ces églises américaines, à chaque fois qu'on avait un projet de bâtiment, on dit, on va apporter de l'argent en France pour que les chrétiens français construisent leurs bâtiments. Vas-y, s'il te plaît. Dieu ne reste jamais redevable à l'homme de ce qui est fait pour lui. Et l'histoire de cette mission en témoigne. Marc 10, 29, 30 dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou ses pères ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus, il n'est pas un blagueur ou un menteur. Il dit exactement ce qui va arriver. Il dit, c'est vrai que si quelqu'un, et dans l'histoire des familles missionnaires, et même des chrétiens qui sont engagés dans la mission, on le voit toujours. Tous ceux qui s'engagent pour Dieu. Dieu n'est pas là pour faire du gré à gré, mais Dieu prend soin de ceux qui s'engagent pour lui. Tous ceux qui sont engagés pour Dieu ont toujours eu la grâce de Dieu. Ils ne sont pas devenus tous riches avec des millions en compte bancaire. Et on sait bien que ce n'est pas ça qui fait la richesse d'un homme, même si c'est important. Mais ils ont eu la grâce de Dieu sur leur vie, sur la vie de leurs descendants. Ils ont eu la grâce de Dieu sur leur vie. L'apôtre Paul dans Philippiens dit, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il était dans une situation compliquée, l'apôtre Paul. Il avait besoin d'être soutenu par rapport à l'annonce de l'évangile. Et les Philippiens, c'est une église qui s'est levée et qui lui a apporté l'aide dont il avait besoin financièrement pour non seulement prendre soin de lui, mais aussi pour aller plus loin dans la mission. Et il dit, je suis reconnaissant pour ça. Mais je sais que même si ça ne venait pas, Dieu allait prendre soin de moi, mais ce n'est pas à vous que Dieu est passé. Et il dit, mon Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. S'engager pour Dieu, Dieu s'engage avec nous aussi. Par contre, nous combattons ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité dit, si tu donnes pour Dieu, Dieu te fera de toi un homme, une femme riche financièrement. C'est faux. L'apôtre Pierre n'était pas riche quand il est mort la tête en bas. L'apôtre Paul n'était pas riche. Mais tous ces gens l'ont dit, mieux vaut servir Dieu que de servir le monde. N'empêche que Dieu bénit aussi, et qu'il bénit richement aussi et matériellement. Mais c'est pas un axiome. C'est pas genre, si tu fais, demain tu seras riche. Et par quoi? C'est ce qu'on entend et c'est dommage. Ça dénature l'évangile de Jésus-Christ. Ça met une pression financière. C'est comme un donnant-donnant. C'est comme si on presse les gens à donner leur argent. Non. Dieu aime celui qui donne avec joie et librement. Parce que Dieu, il veut qu'on comprenne pourquoi on fait les choses. Il ne veut pas qu'on le fasse de façon... Si tu ne le fais pas. Les si, je ne suis pas sûr que ce soit la pédagogie de Dieu. Dieu est celui qui nous explique les choses et veut que nous adhérons et que nous le fassions avec un entier ou un engagement entier. Oui, s'il te plaît. Et terminons avec cette dernière évocation. Si le peuple de Dieu ne sert pas Dieu, qui va servir Dieu? Si les chrétiens, les chrétiennes ne servent pas Dieu, qui va le servir? Qui va le servir? Donc c'est pour cela que la Bible dit que c'est notre vocation, c'est notre appel de servir Dieu. Vas-y. Et avec joie, bien sûr. Et je vais vous donner deux exemples. Et le troisième, c'est le plus éloquent, mais deux d'abord. Celui de Josué. Josué était l'assistant du grand Moïse. Moïse est celui qui a sorti le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte, dans des conditions pas faciles. Sa vie n'a pas été facile lui-même. Et quand Dieu a repris Moïse en main, Dieu a travaillé à la vie de Moïse. Dieu a rendu Moïse. On dit que Moïse était le seul, enfin, à cette époque-là, qui pouvait parler à Dieu vis-à-vis. Et le peuple savait, quand Dieu avait demandé au peuple de le rencontrer au mont Sinaï, le peuple a dit, nous si on y va, c'est sûr qu'on va périr, parce que personne ne peut voir Dieu rester vivant. Mais toi, tu es capable de rentrer dans la présence de Dieu et revenir vivant, parce que tu as une relation avec Dieu. Et pourtant, il en a bavé le Moïse. Mais il aimait Dieu, il avait compris qui il était. Et c'est ce Josué qui était son assistant qui, après Moïse, a conduit le peuple à rentrer sur la terre promise et a permis à chacune des tribus d'être en possession de son héritage matériel, de cette terre où pouvaient enfin asseoir leur famille et prospérer. Sur cette terre où coulait le lait et le miel, l'expression de la prospérité. Et quand Josué a fini de faire tout cela, et que chaque tribu, chaque Israélite était bien installé, il dit maintenant il y a un danger qui vous guette. Maintenant que vous êtes bien au chaud, que Dieu vous a mis au large, que Dieu vous a béni, le danger c'est que vous commenciez à oublier Dieu et à faire comme les peuples aux alentours. Et c'est pour cela qu'il a, dans ce chapitre 24, il convoque le peuple et il leur dit, il y a un engagement quand même à prendre. Il leur raconte l'histoire, d'où ils sont venus. Et il dit, là où nous sommes, vous savez d'où nous venons. Maintenant, il y a un choix à faire. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais en tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, moi, Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un engagement que Josué prend. Quand il regarde l'histoire, quand il regarde comment Dieu a été pour lui et sa famille, quelle reconnaissance à ce Dieu-là que de le servir. Parfois, on se laisse influencer par les autres. Parfois, on se laisse influencer par les autres. Que Dieu nous aide à rester ferme dans notre engagement vis-à-vis de cet engagement-là. Dans son rôle de père, Josué avait engagé sa famille à servir comme lui l'Éternel et non les faux dieux. Son appel à être en cela imité des Israélites fut couronné de succès puisque ceux-ci s'engageaient aussi à servir l'Éternel. Et on lit dans Josué chapitre 24, 21-22, le peuple dit, nous aussi, vu ce que tu es, vu ce qu'on a vu de Dieu, vu ce que tu nous as montré de Dieu, nous aussi, nous nous engageons à servir l'Éternel. Même si par la suite, ils vont quand même échouer par rapport à ce service-là. Et Josué, lui, il va rester fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Parfois, un engagement dans le groupe peut être intéressant, mais on a besoin chacun de s'engager pour Dieu. Le deuxième exemple, c'est celui de David. L'exemple de David, le cœur de David. J'ai déjà rappelé ce texte où David, lors de cet épisode dramatique, parce que le peuple était en train de subir une calamité et il y avait une offrande à faire pour que le mal s'éloigne du peuple. Et le prophète Gad est venu voir David, il lui a dit, voilà ce que Dieu me dit. Dieu me dit qu'il faut que toi, tu ailles faire une offrande, que tu ailles offrir des sacrifices pour que le péché du peuple puisse être pardonné et que Dieu enlève le fléau qui est en train de frapper le peuple. Et donc David se rend dans cet endroit, il trouve un certain Aaronia qui était dans cet espace et il dit, je suis venu faire une offrande à Dieu et le monsieur lui dit, écoute, tu es le roi, prends tout ce que dont tu as besoin pour faire cette offrande-là, je te le donne gratuitement. Et David dit, non, moi je ne veux pas offrir à mon Dieu ce qui ne me coûte pas. Parce que si je le fais, en fait, tu me l'as donné, mais c'est pour toi. Donc, j'aurais offert des choses qui t'appartiennent à toi. Je veux te l'acheter au prix coûtant pour que moi, que représentant du peuple, je puisse offrir à Dieu ce qui me coûte quelque chose. Et le texte est éloquent parce que David, l'argent que David lui donne, c'est exactement le prix de la valeur de cette terre. Des siècles plus tard, c'est sur cette terre qu'il a achetée que le temple sera bâti, sans qu'il le sache au moment où il l'achetait. Le temple, le premier temple de Dieu a été bâti sur cette terre-là, parce que David l'avait acheté. Comme quoi, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne savons pas comment ça va être utilisé en bien pour l'œuvre de Dieu demain. Demain. David n'était pas un homme parfait. Non, loin de là. Il est dit dans ce paragraphe que je vous ai mis là, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le thème que Dieu donne à David, même avant que David ne soit roi. Il dit à Saül, tu es déchu, mais je vais lever quelqu'un qui s'appelle David et ce sera l'homme selon mon cœur. Non pas que ce titre ait servi aux yeux de l'écriture à atténuer ou à effacer les fautes de David. Il en a eu bien des fautes, même graves. Par contre, elles sont au contraire, ces fautes ont été signalées, stigmatisées dans les récits bibliques avec franchise et avec rigueur pour dire que c'était un homme pécheur, David. Mais la force de David, c'était surtout qu'il savait donner gloire à Dieu, qu'il savait s'humilier, qu'il savait reconnaître son péché, qu'il savait dire à Dieu, oui, je reconnais, j'ai mal agi. Je ne mérite même plus ta grâce. Et l'un des psaumes qui dit ça, c'est le psaume 51. Il dit, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même pas digne. Mais il en appelle à la grâce de Dieu. Mais aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu compatissant. N'est-ce pas? C'est l'acceptation parfois humblement des conséquences aussi de son péché. Parce que vous savez, quand on pêche, et je suis le premier à le savoir, il y a des conséquences. Et David sait parfois qu'il va en baver et dit, tu n'auras pas tort si tu me laisses baver parce que c'est moi qui ai fait cette faute-là. Mais est-ce que tu peux atténuer la douleur des conséquences? Quand il a fait cet adultère avec Bathsheba, Bathsheba est tombée enceinte. Et David a dit, je veux que cet enfant reste en vie. Dieu dit, mais ce n'est pas possible, David. Franchement, tu as abusé d'une femme. Tu as fait tuer son mari. Il y a un enfant qui sort de là. Et Dieu dit, cet enfant, je le rappelle à moi. On dit, David a jeûné pour que cet enfant reste. Dieu dit, non, je le rappelle à moi, tout simplement. Et quand Dieu a rappelé cet enfant, le lendemain, David a cessé de jeûner et il était joyeux comme s'il n'y avait rien été. Ses serviteurs ont dit, mais c'est pas possible. Hier, tu étais dans le deuil, aujourd'hui, dans la joie. Il dit, mais que voulez-vous que je fasse? J'ai demandé à Dieu, Dieu l'a repris. La vie doit continuer parce que c'est lui qui décide des combats. Et du reste, je sais pourquoi il a fait ça aussi. C'est ça la force de David. Et c'est pour ça que la Bible dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et les psaumes sont l'expression de ce cœur de Dieu. Jésus, c'est le modèle. Jésus a été le serviteur qui a réalisé en tout point cette prophétie, Matthieu 20, 20 28 et 22, 20, Luc 22, 27. Je suis au milieu de vous comme celui qui sait. Le roi serviteur, on l'a chanté. Le Fils de Dieu est venu non pas pour dominer, mais pour servir. Et c'est ça qui nous laisse. Et il dit, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra la place du serviteur. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. C'est une parole révolutionnaire parce qu'à cette époque-là, les rois étaient des chefs. Et lui, il dit, je suis chef, votre chef, mais je suis en même temps votre serviteur. C'est pour ça que l'expression a été forgée, le roi serviteur. Et nous sommes encouragés à ce modèle d'humilité dans le service, à nous aimer les uns les autres, à nous servir les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous engager les uns pour les autres. Vas-y. Comment être reconnaissant à Dieu pour le salut par grâce? C'est de le servir, bien-aimé. C'est de le servir. Avoir cette capacité particulière que Dieu accorde de discerner, d'accomplir les tâches pratiques et prioritaires de l'Église pour que celle-ci atteigne ses objectifs. Aimer le Seigneur, servir Dieu et son prochain, c'est s'engager d'une façon ou d'une autre à vivre l'Église, à faire vivre l'Église, à faire vivre les Églises. C'est ainsi que l'on manifeste notre reconnaissance à notre Dieu pour nous avoir sauvés du péché et du malheur éternel. Et c'est cela que les Églises en Algérie voudrait pouvoir continuer de vivre aussi. Et c'est pour cela que nous prions pour l'Église en Algérie, pour qu'elle continue de servir son Dieu, pour que l'annonce de l'Évangile soit proclamée et pour que les chrétiens soient édifiés. Je vous invite à la prière. Te bénissons, Seigneur. Nos vies ont été arrachées du malheur par toi. Nous avons des histoires et des parcours divers et variés, mais chacun de nous peut se rappeler, si nous sommes là dans cette salle, c'est parce qu'à un moment donné, cette lumière a jailli dans notre obscurité et a changé quelque chose. Et nous voulons te dire merci parce que tu as été là. Parce que tu es venu au bon moment, parce que tu nous as saisis au bon moment. Et nous voulons être reconnaissants. Et nous voulons aussi nous engager pour que d'autres puissent, eux aussi, avoir cette grâce et ce privilège de ton intervention dans leur vie. Si nous avons goûté que l'Éternel est bon, nous devons faire en sorte que d'autres puissent aussi goûter que l'Éternel. Merci de nous accompagner tous et de nous aider à cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à cette autre partie de notre culte où nous apportons à l'Éternel nos dîmes, nos offrandes et ce que nous avons convenu dans nos cœurs, justement pour le service de Dieu. Je demanderai à Lisa si elle veut bien et à Guylaine si elles veulent bien passer les troncs pour l'offrande et les dîmes. Est-ce qu'Eric est disponible? Eric Zali? Est-ce que tu veux terminer avec un chant pendant qu'Emile approche pour la bénédiction finale et après, ça sera aussi l'annonce pour la vie de notre église avec Eric Messois. Le service de Dieu n'est pas simple et parfois certains d'entre nous travaillent dimanche et c'est le cas d'Adrien. Il avait son tour de président de culte aujourd'hui. Il est venu, il reprend le service à midi et il a dû partir pour prendre son service. Mais il avait à cœur de présider ce culte parce que c'était son tour de servir Dieu.
L'Éternel règne, il est saint de fin. À vous lever, nous allons prier. Et Dieu nous dit dans sa parole, bien-aimés, soyez obéissants